Absolument pas. Il n'était pas conscient de ce qui allait se passer. Absolument pas. La preuve en est, c'est qu'ils ont tous fui. Ils sont tous partis. Sommes-nous conscients, nous, de ce don merveilleux de Jésus à la croix du calvaire? J'avais cette autre pensée du temps de Noé, dans l'ancien monde, on pourrait dire. Il y avait un peuple nombreux là sur cette terre. Pourtant, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Peut-être que là, ce matin, on se dit, on n'est pas très nombreux. Certains sont en vacances. Pourtant, si on fermait les yeux, là, en court instant, combien on verrait que le peuple de Dieu est innombrable. Innombrable. Personne ne peut compter le peuple de Dieu. C'est comme le sable sur une plage. Essayez d'en compter les grains. Vous n'y arriverez pas. Et un jour dans le ciel, c'est un peuple innombrable qui louera, chantera les merveilles de notre Seigneur. Parce qu'il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. D'abord, je vous dis bonjour à tous. Il y en a quelques-uns, très peu, que j'ai vus il y a peu de temps. Mais vous, il y avait un petit moment que je ne vous avais pas vu. Je sais pas, vous étiez peut-être pas là, hein. Ou c'était moi qui n'étais pas là. Enfin, bref, quoi. Hein. Mais vraiment, je vous dis bonjour. De tout mon cœur. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que l'on guette avec impatience, qui met parfait trop de temps à venir et qu'on dévore en un instant tout en la savourant souvent? Elle est des 5 continents, la relation des êtres entre eux qui, tout en étant fragiles, se conservent longtemps. Celle que je serre sur mon cœur, inestimable valeur qui, au-delà de sa fragilité, s'insère à mon âme pour toujours et à jamais. Rien ne la remplace si ce n'est celui qui en est l'auteur. On peut la définir de bien des manières. Elle peut tout apporter, tout raconter. Elle a son avantage qu'elle peut demeurer, être modifiée, se transmettre. Elle peut tout dire, le meilleur, le pire. Elle peut être à la fois porteuse de bonnes comme de mauvaises nouvelles, porteuse de victoires comme de défaites, d'assurance comme de folie, de guerre comme de paix. Elle est tout, la vérité comme le mensonge. Il y aurait tant de choses à dire en ce qui la concerne. Qui est-elle? Dites-moi. Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. C'est pas la langue. C'est presque ça, mais pas tout à fait. Non plus. Hein? Hein? Morte ou vivante, elle est le choix qu'on en fait. Non. Mon Dieu, c'est très simple. Parfois, vous en recevez à la maison. Vous préféreriez les jeter à la poubelle. D'autres, vous les prenez, vous les ouvrez, vous les lisez, vous les savourez. Vous êtes tellement content, contente de l'avoir reçue. La lettre. La lettre. La lettre. C'est beau une lettre. C'est magnifique une lettre, hein? La lettre. Et c'est quoi une lettre? Hein? Alors je lisais. Elle représente les sons, le caractère, la qualité, les particularités, l'ambition, la marque de celui qui l'a écrit. La lettre. Je vous disais, elle est porteuse de bonnes comme de mauvaises nouvelles, de guerre comme de paix. La lettre. Elle est l'usage que l'on en fait. Si j'aime quelqu'un, je lui écris une lettre d'amour. Eh, combien le fiancé sait trouver les mots pour écrire à sa fiancée, ou la fiancée sait trouver les mots pour écrire à son fiancé. Quand on est amoureux, on ne cherche pas les mots, ils coulent tout seuls, n'est-ce pas? Mais parfois la lettre, c'est encore autre chose. Mais nous, oh, combien je voudrais attirer notre attention ce matin. Nous, nous avons reçu une lettre. Une lettre qui est merveilleuse. Et en vous disant ça, là, je pleurerai parce que je me dis, Seigneur, combien ils sont peu nombreux ceux qui la lisent, cette lettre. Nous avons reçu une lettre en 66 livres. 66 livres comme 66 maillons d'une même chaîne, présentant une harmonie parfaite. Elle est belle, cette lettre. Pour celui qui sait la lire, pour celui qui veut la lire. Moi, je me réjouis quand j'entends dire qu'un frère, une sœur a soif d'apprendre et veut apprendre. Parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'apprendre, cette lèvre entre 66 livres. Elle va l'apprendre. Chaque jour, elle va la savourer tout doucement, tranquillement. Vous savez, ça me fait toujours penser, vous allez dire, Daniel, il faut toujours qu'il mange. Je vous assure, je ne mange pas beaucoup, mais c'est comme un mets succulent. Quelque chose que vous aimez particulièrement. Vous allez le manger tout doucement. Tout doucement. Pour en savourer tout ce qui la contient, tout ce qui est dedans. C'est bon. La lettre, 66 maillons d'une même chaîne. Une chaîne que personne ne peut briser. Parce que cette lettre, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains 15:4, toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité. Et nous en persuader pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. La lettre, elle est là. Mon Dieu, ne passons pas à côté d'une chose aussi merveilleuse que la parole de Dieu. La lettre, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Peut-être que vous me direz que vous n'avez pas besoin d'être rectifié. Moi, oui. Tous les jours. À tout moment, à chaque seconde, même à chaque fraction de seconde, j'ai besoin d'être rectifié. Il n'y a rien de plus heureux qu'un homme, une femme, qui réalise combien il a besoin chaque jour d'être rectifié par la parole de Dieu. Il ne bronchera jamais. C'est quelque chose d'extraordinaire, rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Prenons conscience de ce qui est écrit dans la lettre. Ce n'est plus moi qui agis, c'est Dieu qui agit en moi, qui va agir en vous, la lettre. C'est bon de recevoir une lettre. Vous savez, ça me faisait penser à ces soldats lors de la Grande Guerre en 14-18, où malheureusement des millions et des millions de personnes ont perdu la vie. Mais combien d'hommes attendaient cette lettre, la lettre de leur épouse, les nouvelles de leurs enfants, les nouvelles de leur famille, cette lettre, ils la pliaient et ils la posaient là, juste à côté de leur cœur. Cette lettre, elle ne les quittait jamais. Combien de fois, quand ils en avaient le temps et s'ils pouvaient encore vivre, ils la sortaient de leur poche et ils la lisaient et ils la relisaient. Cette lettre, elle avait une valeur inestimable. Nous avons reçu une lettre d'une valeur inestimable. On ne peut pas estimer la lettre. On est des hommes et des femmes riches. Ce n'est pas orgueilleux ce que je dis. On est riches. Je suis riche. Ne venez pas me demander des sous. Ça n'a rien à voir. Mais on est riche. Quand on peut savourer la grandeur, l'amour, la splendeur de Dieu, quand on peut réaliser les merveilles qui nous attendent, mon Dieu, qu'on est riche. On n'est pas riche d'argent, on n'est pas riche de biens de cette terre. Et si même peut-être on peut être riche des biens de cette terre, quelles sont les plus belles des richesses, si ce n'est les richesses qui nous attendent là-haut. Mais que déjà, quelque part, on en goûte les prémices. N'est-ce pas? Romains 15:4 nous dit, « Or tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Le psaume 119-130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Luc 11-28 nous dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La lettre. C'est vrai que nous avons en elle la plus belle des encyclopédies. Peut-être que vous avez une grande bibliothèque chez vous, ça me faisait penser à ça. Parce que je connaissais un frère qui a une grande bibliothèque chez lui. Il a de nombreux livres, il les a certainement tous lus. Mais si vous avez oublié de lire, de méditer et de garder en votre cœur la parole de Dieu, tout le reste ne vous sert à rien. Elle s'affiche en deux pages. Deux pages. La parole de Dieu. Ou la parole de Dieu. En deux pages. Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... J'ai pas entendu. Qui sort de la bouche de Dieu. Voyez, Dieu nous a envoyé une lettre avec ses mots écrits. Et ça, c'est formidable. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Hébreux 17. Jean 1,1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lettre, elle s'affirme, se confirme. Et je crois qu'aujourd'hui, on est devant un défi. Voulons-nous en faire l'expérience? Veux-tu en faire l'expérience? C'est pas un simple livre qu'on lit comme ça, comme le journal du dimanche. C'est un livre de vie, c'est un livre d'amour, c'est un livre de pardon, c'est un livre de grâce. C'est pas une religion. C'est pas une religion. Le Seigneur nous demande pas d'être dans une religion. Le Seigneur nous demande de lui appartenir, d'être à lui. Et ça dépasse tout. La lettre. Vous connaissez ce passage, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit dans la lettre. Il y aurait tellement à dire sur la lettre. Y a-t-il plus beau message au milieu d'un monde qui se corrompt, au milieu d'un monde qui est rempli de détresse, au milieu d'un monde qui de plus en plus est sans âme? Moi, je trouve qu'on est dans un monde horrible. C'est vrai qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, c'est la parole de Dieu qui le dit. On est dans un monde où on n'a jamais autant développé les moyens de communication. Et pardonnez-moi, il n'y a plus de communication. La lettre, c'est quelque chose de personnel, qui nous est adressé directement à nous. Le Seigneur, quand il a écrit la lettre, il n'a pas écrit simplement une lettre pour un groupe d'hommes, pour un groupe de personnes. Alors c'est vrai qu'elle s'adresse à tout le monde, mais elle s'adresse à nous en particulier. Quand je la lis dans ma maison, elle est pour moi, comme elle est pour toi si tu la lis et si tu sais la savourer. Jean 1,10 nous dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Triste est l'homme, la femme, qui refuse de croire en Dieu, qui rejette la parole de Dieu. Mais combien heureux, heureuse la femme, l'homme, l'enfant, qui croit à la parole de Dieu, qui la fait sienne, qui la porte jour après jour, année après année. C'est le plus merveilleux des trésors et personne ne peut nous le prendre. Personne ne peut nous le prendre, ce trésor. On peut vous prendre tout ce que vous avez, tout. Mais ça, on ne peut pas vous le prendre. Et même si on vous prenait le livre d'une manière, je dirais, physique, la lettre, si vous l'avez lue, si vous l'avez méditée, si vous l'avez mangée, elle reste en vous. Elle est en vous, qui peut vous la prendre? Personne. Et on a un Dieu tellement merveilleux que chaque fois qu'il y a un problème, une difficulté, un moment de détresse, de découragement, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui lisent et qui savourent la parole de Dieu? Il fait remonter à la surface les mots de sa parole pour nous encourager et nous aider à aller de l'avant. Je me disais plutôt, l'homme sans Dieu, c'est qu'un animal de plus sur la terre. Pour ne pas dire un monstre, pardonnez-moi, mais l'homme sans Dieu, c'est rien. Il fait que passer, il disparaît, terminé. même s'il a été richissime, et des fois on le voit, un homme célèbre, un tel, plein d'argent, richissime, une gloire incommensurable, chouf, il n'est plus là. Et les vautours s'empressent pour voir ce qu'on peut manger dans les restes. Mais nous, nous avons reçu la parole de Dieu. Je me disais que la différence chez un homme par rapport à un animal, c'est qu'il parle, il réfléchit, il invente. Et son drame, c'est qu'il détruit tout sur son passage. Je vous disais qu'on est dans le siècle des connaissances. C'est vrai qu'on n'a jamais autant inventé. C'est extraordinaire quand même quand on regarde toutes les inventions qui se font. Bientôt, l'homme se dit, je vais aller sur Mars, je vais aller, je sais pas, sur la dernière, la plus grande des planètes, le plus loin possible. Je sais pas quand, mais enfin bon. Bref, quoi. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais aller dans le royaume de Dieu. Je vais retrouver mon Père, je vais retrouver mon ami, je vais retrouver mon Seigneur, je vais retrouver mon Sauveur. C'est beau, ça, hein? C'est quand même beau, ça, c'est extraordinaire. Cette espérance vivante que le Seigneur, il met en nous. Il l'a mis, mais elle y est en nous, elle y reste, elle y demeure. Restez profondément attachés à la parole. Hein? On pourrait dire, où se cache Dieu? Parce que c'est ça. Où se cache Dieu? Il y avait un homme qui n'était pas un scientifique, il n'était pas un chercheur, mais simplement un pêcheur. Il a écrit une phrase étonnante pour introduire son récit de la vie de Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Alors, je me suis posé une question, Jésus serait donc Dieu? Je ne vais pas rentrer dans une explication. Non, absolument pas. Jean, dans son épître, témoigne, signe, annonce à qui veut l'entendre plus encore, le recevoir bien plus encore, lui donner sa vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Afin que nous soyons constamment, quelque part, dans cette joie de ce qu'un jour nos yeux verront Jésus. Quand on est un enfant, on ne pense pas à cela. Quand on est adolescent, on n'y pense pas non plus. Quand on vient de se marier ou autre, on l'entend, mais on n'y pense pas. Mais avec le temps, on y pense de plus en plus. Et ça devient quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Nous avons tellement besoin de rentrer dans cette joie parfaite. La joie du monde, elle n'est pas parfaite. La joie du monde, elle est éphémère, elle ne dure qu'un instant. La gloire des hommes, elle ne dure qu'un instant. Mais la joie de l'enfant de Dieu, elle est parfaite et elle demeure éternellement. Hein? Pourquoi ce matin, je voudrais vous lire une des plus précieuses correspondances d'un des élus les plus aimés de l'Église primitive. L'apôtre Jean était un homme très aimé. Il a écrit dans 2 Jean 2:1, de la part de l'ancien, à la dame choisie par Dieu et à ses enfants que j'aime en toute vérité, ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, parce que la vérité demeure en nous et ce sera avec nous pour toujours. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous accordent la grâce, le pardon et la paix pour que nous en vivions dans la vérité et l'amour. À la dame! La dame choisie, l'Église, le corps du Christ, l'épouse. L'épouse, vous rendez compte, je vous parlais de myriades, mais cette myriade, elle ne forme qu'un, une épouse qui se prépare à rencontrer le Seigneur. Ah, combien le Seigneur est patient avec nous. Mon Dieu, que de patience il a avec nous. Comment on peut l'adorer en levant la tête, si ce n'est à cause du sang de Jésus à la croix du calvaire, qui nous a pardonnés, lavés, purifiés. Sinon, on ne pourrait pas lever la tête. Un jour, on verra la gloire de Dieu. Moi, je m'imagine tous couchés par terre. Comment peut-on voir la gloire de Dieu? Pourtant, ce jour-là, on sera changé en un instant. On ne sera plus dans un corps de chair. Il nous aura donné un autre cœur. Rien qu'à cette pensée, moi, je me perdrai dans la louange et dans l'adoration. Un autre cœur. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. C'est plus charnel. On n'est plus assujetti aux pensées charnelles. On n'est plus assujetti à tous les combats de la vie charnelle. J'aime ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Je traite durement mon corps, je le tiens durement assujetti. » Le lire, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. Hein? Parce qu'on peut dire « Moi, je le fais. » Hein? Doucement. Mais plus je le lis, plus je me le répète à moi-même, plus le Seigneur me montre ce que ça veut dire « Je tiens durement assujetti mon corps, ce corps de péché, ce corps qui veut m'entraîner toujours vers le bas, alors que la parole de Dieu, elle veut m'élever. La lettre, elle veut m'élever. Elle veut m'arracher à cette condition humaine. Et nous avons reçu de Dieu son esprit. C'est par lui que nous sommes capables de faire ça. C'est certainement pas par nos forces charnelles. Là, on ne pourrait pas. Il n'y aurait que des chaises vides ici. Mais il y a des chaises remplies à cause du sang de Jésus à la croix du calvaire, à cause du pardon. C'est beau quand même de faire partir de ce corps, de ces corps élus, choisis, celles qui profitent de ses grâces, de ses bienfaits, de son pardon, de ses bénédictions. Quel Père nous avons! Il ne cesse de nous parler dans sa parole. Il n'arrête pas de nous parler, il nous enseigne, il nous apprend. Il nous convoque à venir vers lui. Moi, je me dis toujours, si on était conscient de qui est Dieu, ce lieu serait plein avant l'heure dite. Ce lieu serait rempli avant l'heure dite. Nous serions tous en prière. Nous serions tous en adoration. Nous serions tous en louange. Il n'y aurait pas une personne qui conduit les chants. Mais quelque part, on serait tous conduits par le maestro des maestros, Jésus-Christ. Hein? Voyez un peu. On ne se rend pas compte. Prenons-en conscience. Le Seigneur ne nous juge pas. Prenons-en conscience, prenons conscience de ces choses-là. Je vous ai raconté un jour le témoignage de cet homme qui était sur une plage et ce n'était pas le lieu où il devait se trouver. Et le Seigneur lui a montré que ce n'était pas sa place. Quand il est rentré chez lui, il a couru pour aller à la réunion de prière. Il a couru pour aller à la réunion de prière. Il a couru, il n'a jamais autant savouré les bienfaits d'une réunion de prière que ce jour-là. Voyez un peu, c'est ça que le Seigneur veut, c'est un Père. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il est patient. Comme nous, souvent, nous essayons. Lui, il n'essaye pas, il est. Nous essayons d'être patients avec nos enfants. J'avoue que j'ai bien à apprendre, parce que je ne suis pas le père à la patience. Eh oui, mais je demande au Seigneur. Alors, comme ma femme me connaît, elle sait très bien que sur le coup, je vais dire non, mais après, je dirai oui. On a des défauts, que voulez-vous? Mais c'est la grâce de Dieu qui fait ça, n'est-ce pas? La lettre. Cette lettre, elle a traversé les siècles, elle n'a jamais pris une ride, elle n'a jamais changé, elle n'a jamais été transformée. Ceux qui ont essayé de le faire ont échoué. Combien auraient voulu faire disparaître la parole de Dieu? Ah, combien d'hommes se sont élevés, se sont dressés et ont cherché partout les moyens les plus abjects à faire disparaître la parole de Dieu. Ils ont échoué. Ils ont échoué complètement. Parce que la lettre, elle peut traverser les siècles, et elle a traversé les siècles, les millénaires, sans jamais, comme je viens de vous le dire, prendre une ride. Matthieu 5, 18 nous dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. » Matthieu 24, 35 nous dit, « Il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Apocalypse 19, 7 nous dit, « Réjouissons-nous. » Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. On a chanté « Jésus, je t'aime hein ». Je reviens encore une fois là-dessus. Je le dis à mon épouse en venant, je dis « Seigneur, apprends-moi à t'aimer ». Vous savez, quand on apprend vraiment à aimer quelqu'un, dans ce désir profond de l'aimer, mais de l'aimer, avec tout ce que ça sous-entend, tout ce que ça veut dire, mon Dieu, combien on s'enrichit. On découvre ce qu'est l'amour. On le découvre jour après jour. Et comme je vous le disais précédemment, on court dans la maison de celui que l'on aime. Alors vous me direz, mais je cours, moi. dans mon cœur, mais le Seigneur, il aime que son peuple se réunisse. Il aime que son peuple se réunisse ensemble. Il aime que son peuple élève la voix ensemble. Un jour, vous verrez, il n'y aura pas de trou dans la louange. Il n'y aura pas de moment creux. Il n'y en aura pas. Il ne peut pas y en avoir. Ça sera une allégresse perpétuelle. Je ne sais pas de quoi le ciel sera fait, mais rien que d'y penser, j'ai des soupirs que je ne peux même pas exprimer, tellement ça va être beau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, préparons-nous. Car Jésus, c'est l'endroit, c'est le lieu où nous devons chercher Dieu. Acte 4:12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ecclésiaste 7:29, Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché une foule de complications. Ne nous compliquons pas la vie. Elle est bien assez compliquée, la vie. Ne nous compliquons pas la vie. Combien de fois on se complique la vie alors que le Seigneur ne veut pas que se complique la vie. Jacques 1:19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi. Et combien on a besoin quand même de bien lire la parole de Dieu. Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ah Seigneur, tu sais combien je t'aime, oh mon Dieu, combien je t'aime. Et puis dès que j'ai tourné le dos, je me mets à juger, à critiquer, à parler mal, à condamner. Attendez, il y a un problème là. Il y a un problème, je vis dans le mensonge, je vis dans le déni. Et le Seigneur ne veut pas que je vive dans le mensonge et dans le déni. Rien n'est facile sur cette terre. Mais je vous le répète encore une fois, on a reçu une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous aide à réformer tout ce qui en nous ne va pas. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je ne sais pas quel genre de Bible vous avez chez vous. Peut-être que vous avez des Bibles d'une valeur sentimentale, n'est-ce pas? Alors vous la mettez sur l'étagère, n'est-ce pas? Eh oui, c'est une valeur sentimentale. Par exemple, la Bible le jour de votre mariage, elle est blanche, vous ne voulez pas la salir. Donc, vous la mettez sur l'étagère. De temps en temps, vous la regardez, mais vous ne la touchez pas. Hein, faut pas l'abîmer. Et il y en a d'autres qui ont une valeur historique, artistique, inestimable. Celle-là, vous savez, on l'aimait sous verre. On l'aimait sous verre. Il ne faut pas les toucher, parce que si vous les touchez, vous allez les abîmer. Donc, vous contentez de la regarder. Mais nous avons reçu la plus précieuse de toutes celles qu'il y a, celle qui nous enrichit personnellement. Et vous savez, celle-là, si blanche elle était, noire elle devient. Si les pages toutes blanches étaient, eh bien, permettez-moi de vous dire qu'elles vont être toutes cornées, toutes rabougries, on pourrait dire. Des fois même, il y a des petits morceaux qui sentent bon, qui se détachent. Des fois, il y a une page qui est déchirée, mais elle reste quand même dans la parole de Dieu. Hein? Des fois, elle est pleine d'écritures, de petits mots, de tout ce qui est venu sur notre cœur. Ça, c'est la Bible que le Seigneur veut qu'on ait entre les mains. C'est celle-là qu'il veut. La Bible, elle n'est pas faite pour mettre sous verre. Ça sert à quoi, sous verre? Ah, les hommes sont contents, ils ont une Bible d'une valeur inestimable, ils l'ont sous verre, elle est au musée. Le Seigneur ne veut pas que tu sois au musée. Qu'est-ce que tu ferais au musée? Le Seigneur, il veut que tu sois dans son corps. Il veut que tu sois un élément qui reflète sa gloire, son parfum. Hein? Voyez un petit peu. Le psaume 119, 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Proverbe 6, 23, « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sur les chemins de la vie. » Ouh là là, ouh là là. On n'aime pas les avertissements. Non, la correction, encore moins. Ah non, non. Moi, j'ai un Dieu, il est plein d'amour, il ne me corrige jamais, il ne me donne pas d'avertissement. Non, 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 le Seigneur, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. C'est parce que le Seigneur nous aime qu'il vient nous corriger. C'est pour notre salut. Parfois, on passe par des chemins très, très, très difficiles. Des chemins qu'on ne voudrait pas passer, des chemins qui sont âpres. Mais c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il veut qu'on ressorte de ce chemin changé, transformé, renouvelé. Éphésiens 5,16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais !» Et nous sommes vraiment dans des jours mauvais. Mon Dieu, Seigneur, aide-nous à passer plus de temps devant ta parole qu'ailleurs. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la prière. On a besoin, dans les nuits, j'oserais dire, sans sommeil, si le Seigneur nous donne d'être sans sommeil, de le passer dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Il n'y a pas longtemps, c'est de là que m'est venu ce message où je vous ai chanté « Je veux monter sur la montagne ». Je ne vais pas vous le rechanter, n'ayez pas peur. Hein, mais combien c'est vrai, je veux monter sur la montagne. C'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que notre joie, elle est immense. Personne ne peut nous l'apprendre. Je veux monter sur la montagne, pas à 1000 mètres, ni à 7000 mètres d'altitude, non. C'est une montagne spirituelle qui m'élève au royaume des cieux. Amen. 2 Timothée 4,1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il faut bien lire ce qui est écrit. Comme ça, quand vous entendrez une parole qui vous paraît dure, vous direz, elle n'est pas dure, elle est pour moi. La parole de Dieu, ce n'est pas un sucre. Sinon, je vais vous le tremper à la moutarde. Vous verrez, ce n'est pas pareil. Au début... Après, vous aurez le sucre, mais d'abord, vous aurez la moutarde. D'accord? Ou alors la rissa, ou quelque chose d'encore plus fort. Hein, pour ceux qui ont le palais un peu doux, quoi, vous allez faire des bons. Mais derrière, il y a le sucre. Mais avant de prendre le sucre, ben, il faut prendre le reste. N'est-ce pas? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur. Réprimande, j'ai mis entre parenthèses, et en instruisant. Car il viendra un temps, et ça, vous l'entendez souvent. On l'entend souvent, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire le saint enseignement, la parole naturelle de Dieu. Les hommes, les femmes ne la supporteront pas. Il y a des gens comme ça, ils déchirent la moitié de la Bible, ou ils transforment la moitié des passages de la parole de Dieu, ou ils les sortent de leur contexte, parce qu'ils n'ont envie que d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ne veulent pas entendre autre chose, hein? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, vous arrivez de vous démanger, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, moi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors on pourrait dire effectivement, ça s'adresse certainement à un pasteur, à un enseignant ou je ne sais quoi. Eh bien moi je veux le prendre pour moi. Et on a besoin de le prendre pour soi. Parce que si je veux faire l'œuvre de l'évangéliste, je dois être un témoin qui porte l'odeur de Jésus-Christ. Et pour cela j'ai besoin vraiment de vivre la parole de Dieu. Hein? En conclusion, pour terminer, pour ne pas être trop long, ce passage que vous connaissez bien, mais relisez-le à la maison. 1 Pierre 2, Désiré. C'est mon deuxième prénom. Désiré. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. N'en cherchez pas la signification, le mot se suffit à lui-même. Comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jean 6, 35, il est celui qui a dit, pour que ce soit encore mieux écrit, là c'est moi qui l'écris, c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ésaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Moi, ça me fait toujours penser qu'il est écrit aussi que la nature elle-même soupire après le retour de Dieu. La nature soupire après le retour de Dieu. Et moi, un instrument, moi, un être sauvé, par la puissance de Dieu, moi, un homme qui a été lavé, purifié, je ne soupirerai pas après le retour de Dieu. J'éclaterai pas de joie et d'allégresse parce qu'un jour, c'est ce qui passera. Alors, je ne sais pas si vous avez l'imagination débordante, mais moi, je m'imagine les arbres battre des mains, les collines battre des mains, les pierres battre des mains. Vous voyez, on a le droit d'imaginer tout ce qu'on voudra, du moment que c'est que pour la gloire de Dieu. Un jour, l'univers tout entier, parce que tout l'univers est à Dieu, battra des mains. Hein ? La lettre, elle est écrite pour moi, pour toi. Elle me dit encore et encore dans Luc 10, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La lettre, dans Ésaïe 53,5 nous dit, qui t'affirme et te confirme, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La lettre, elle t'invite aujourd'hui encore gratuitement. Toi qui as soif, viens aux grandes eaux. Toi qui n'as pas d'argent, viens acheter et manger du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55.1. La lettre, Matthieu 11.28. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Prends mon jour sur toi et reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et tu trouveras le repos pour ton âme, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug. Jésus ne nous charge pas d'un joug, il nous soulage. Moi, je m'imagine toujours, même si parfois il peut paraître lourd et pesant, combien il devient, dès qu'on s'approche du Seigneur, tel du coton, extrêmement léger. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si tu as péché, là encore, ce matin, qui n'a pas péché, qui ne commet jamais de faute? Jésus dira cette vérité, que celui qui chante péché jette le premier la pierre. On a tellement besoin du Seigneur. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus. La lettre où il est écrit, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » La lettre, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, 1 Jean 4,16. Alors, la lettre, si je peux me permettre pour conclure, ça c'est moi qui l'ai écrit. Je la serre sur mon cœur, comme un baiser venu d'ailleurs. Inestimable valeur que rien ne remplace, si ce n'est celui qui en est l'auteur, en enlever un mot serait m'arracher le cœur. On ne peut pas enlever un mot à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une source de richesse inestimable. Chaque jour, celui qui a faim et soif de Dieu s'en approche. Il pénètre dans la parole de Dieu. Je dirais quelque part, quand je dis ça, c'est comme si je pénétrais dans un royaume extraordinaire, un royaume de paix, de joie et de bonheur. Et je prends ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui comme pour demain. La lettre, je vous le disais tout à l'heure, c'est une inestimable valeur, la lettre. La Bible, entre les mains de ceux et celles qu'il aime, elle s'use avec le temps, mais l'amour pour Dieu ne s'use jamais. Notre Seigneur nous aime tellement. La lettre, il nous l'a donnée pour que nous en prenions soin, pour que nous soyons de ceux qui la transmettent aussi à d'autres, la lettre. Vous voyez, c'était simple ma question du départ. La lettre, hein. Souvenez-vous-en et gardez-la profondément, profondément enracinée dans votre cœur. Amen. Seigneur, mon Dieu, combien il est merveilleux de te louer, de t'adorer, Seigneur, mais s'il te plaît, Seigneur, toi, dans ta grande patience, dans ton amour incommensurable, Seigneur, toi qui ne juges personne, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé, attire-nous encore à toi ce matin, Seigneur. Attire-nous, attire nos cœurs vers toi, Seigneur, mon Dieu, Père, afin que personne ne parte de ce lieu, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé, sans avoir réalisé combien il a besoin de s'approcher de toi, Seigneur. M'approcher de toi, Seigneur, c'est mon bien le plus précieux, Seigneur. La nuit comme le jour, Seigneur mon Dieu, tu es là, tu es présent, Seigneur. Et jamais tu ne te dérobes à l'appel de ton enfant, Seigneur mon Dieu, Père. Quelle grâce là encore ce matin de te remercier, Seigneur, et d'être ensemble en communion fraternelle, Seigneur mon Dieu, autour de ta parole, Seigneur, dans le chant et dans l'allégresse, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alors souvenez-vous que vous avez une lettre merveilleuse. 66 livres. Lisez-les tous et recommencez après.